Bonjour, je m'appelle Marielle et j'ai le plaisir de vous accueillir sur Compresse et Sparadrap, le podcast qui donne la parole aux soignants. Ici, on parle de vocation, d'expérience, de déception, de choix de carrière, mais aussi de remise en question et de moments de bonheur. L'idée, vous faire découvrir ces métiers de l'ombre, l'envers du décor du milieu hospitalier, par le biais de partage d'expériences et d'interviews sans tabou. Aujourd'hui, je donne la parole à Sarah. Voilà deux petites années qu'elle exerce le métier d'ergothérapeute. Entre grève, pandémie, confinement à répétition, son début de carrière a été un vrai défi. Bonne écoute. Bonjour Sarah.
Bonjour Marielle.
Merci beaucoup de me recevoir virtuellement chez toi. On est en plein cœur de l'été au moment où on enregistre. Tu es le premier épisode de la deuxième saison, je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça, du podcast. Donc tu seras le premier épisode à sortir à la rentrée de septembre 2021. Donc merci de prendre de ton temps pour ça.
Avec plaisir.
Je te laisse te présenter, Sarah, pour démarrer, pour les personnes qui nous écoutent.
Alors, je m'appelle Sarah, j'ai 24 ans, bientôt 25 ans. Je suis diplômée en ergothérapie depuis juin 2019, et donc je travaille depuis septembre 2019 en libéral à Paris et Saint-Ouen.
C'est tout récent.
Voilà, c'est ça.
Bon, t'as démarré en plein milieu de la crise sanitaire, c'est pas le, je pense, le démarrage qu'on imagine et qu'on espère non plus, un bon défi pour commencer.
Oui, ah, ça c'est sûr que la première année a été assez compliquée. Alors au début ça allait, puisque la crise a commencé vraiment en France qu'en février, donc de septembre à février, pas de Covid, mais par contre il y avait les grèves, et donc en libéral c'est compliqué, comme on travaille en domicile, en école et tout ça, donc j'ai commencé par décembre-janvier en pleine grève. J'ai retravaillé en février, puis en mars, on a été confinés, donc je n'ai pas travaillé pendant 2 mois, de mi-mars à mi-mai. Voilà, donc c'est vrai que ça a été une année assez particulière.
Tu es la première ergothérapeute que je reçois à mon micro, et donc on va faire en sorte que cet épisode soit le plus complet possible pour les personnes qui nous écoutent, qui sont peut-être en recherche de reconversion, des étudiants qui se cherchent, et puis des gens qui sont aussi curieux de connaître ce métier. Moi, j'aurais voulu savoir déjà comment tu as entendu parler de ce métier. Est-ce que quelqu'un dans ta famille l'exerçait, ou comment tu as entendu parler du métier d'ergothérapeute ?
Alors, j'ai commencé à entendre... j'ai pas commencé à en entendre parler. C'est plutôt qu'en terminale, je ne savais pas vers où j'allais aller et je voulais plutôt m'orienter vers du paramédical. Donc, je me suis renseignée. J'ai fait plusieurs stages de 3-4 jours. J'ai fait un stage en kiné, un stage avec une infirmière et un stage avec des ergothérapeutes dans un centre de rééducation. Donc, ça m'a quand même apporté quelques réponses, mais pas entièrement. Donc, j'ai continué vers une remise à niveau scientifique pour aller ensuite en prépa, parce que j'avais un bac ES. Voilà. Et donc, en fait, en prépa, c'était une prépa qui formait à tous les concours paramédicaux. Et donc là, j'ai plus connu le métier d'ergothérapeute, et c'est là que j'ai décidé de m'orienter vers ça.
Donc, on rentre à l'école sur concours ?
Avant, oui. Ça a changé depuis 2 ans. 1 an ou 2 ans.
Puis avec toutes ces histoires de Parcoursup, tout ça, alors je veux bien que tu nous expliques parce que je pense que c'est un peu obscur.
Alors moi, à mon époque, il y a 2 ans, mais ça a été à peu près le moment où ça a changé. En tout cas, jusqu'à moi. Donc je suis entrée à l'école en 2016. Et nous, en fait, il y avait plusieurs façons d'entrer. Donc il y avait à peu près 55 à 60 places, puisque ce sont des promos de 60 à peu près. Une grosse partie sur concours. Donc, il y avait plusieurs concours en France. Moi, j'en ai passé 8. Il devait en avoir une quinzaine à l'époque. Il n'y avait pas beaucoup d'écoles, hein, parce que ça faisait 15 écoles à peu près, je crois, hein, entre 15 et 20.
Ah oui.
Ouais. Donc, moi, j'en ai passé 8. Et puis ensuite, voilà, soit on est sur liste principale, soit sur liste d'attente. Il y avait à peu près 60 places pour... ça allait de 500 à 800 participants au concours. Et ensuite, du coup, on choisit l'école où on est prise, si on peut choisir, bien sûr. Il y avait des places par concours. Une partie, il y avait une dizaine de places par médecine, donc pour les étudiants en médecine, en PACES même. Et il y a quelques passerelles de reconversion. Il doit y avoir 2 ou 3 places, soit grand sportif, soit reconversion professionnelle.
Ah, ok. Donc, on peut vraiment venir d'univers voilà, assez variés pour aboutir à ses études.
Et aujourd'hui, par contre, la différence, c'est qu'à la place du concours, en fait, c'est les places par Parcoursup, sur dossier. Mais il y a toujours les places médecine et les places passerelles.
D'accord, très bien. Donc, toi, tu as obtenu une place suite à l'obtention du concours.
Voilà, tout à fait.
Et tu as fait ton école à Paris, alors ?
Oui, à Paris. Il y a 3 écoles en région parisienne. Il y a Créteil, Les Mureaux et Paris, qui s'appelle l'ADER. Voilà.
Et la formation, comment elle se déroule ? Est-ce qu'il y a une alternance, comme on peut l'imaginer, entre des stages, des cours ? Ça dure combien de temps ?
Oui, tout à fait. Alors, c'est une formation en 3 ans. Sur les 3 ans, on a 5 stages. Donc en première année, on a un stage d'un mois au mois de février. C'est toujours les mêmes périodes. Donc en fait, on est en cours de septembre à juin. En février, on a un stage d'un mois. En deuxième année, pareil, un an de cours. Et on a stage septembre-octobre et mai-juin. Puis en troisième année, on a cours toute l'année et on a stage novembre-décembre et mars-avril. Ce qui fait qu'en fait,
Ah,
comme
ok.
il y a une alternance à l'école, il y a souvent une des promotions qui n'est pas à l'école, en fait.
D'accord, ouais. Et ces stages sont imposés ou vous avez la possibilité de donner un choix, un souhait ou quelque chose?
Oui, alors ça dépend des écoles. Ce qui est commun à toutes les écoles, c'est qu'on a trois milieux, entre guillemets, où on doit faire des stages: rééducation fonctionnelle, psychiatrie ou lieu de vie. Donc ça, pendant les 5 stages, on doit au moins avoir fait un stage dans chaque milieu. Mais par contre, nous, dans notre école, on fonctionnait, on avait une liste de stages, une grande liste de stages partout en France, majoritairement à Paris, mais partout en France. Et après, en fait, c'est aux étudiants, entre guillemets, de voir entre eux. Alors nous, ce qu'on faisait, c'est qu'on s'inscrivait sur les listes et puis après, soit on s'arrangeait entre nous, soit on faisait des tirages au sort. Voilà, ce qui est... Mais bon, ça se passait plutôt bien en général.
Vous arriviez quand
Entre
même
nous.
à bien vous les répartir sans que ça
On se
soit.
connaît. Mais en fait, on est des petites promotions, on se connaît tous, on passe toute l'année
Ouais,
ensemble,
donc
donc
c'était
bon,
pas trop la guerre.
ça se passait plutôt bien.
Est-ce que toi, il y a un stage qui t'a marqué ou quelque chose ou un module? Je sais pas si la formation s'articule par module ou s'il y a quelque chose qui vraiment t'a plu dès le début de la formation?
Alors, il y a plein de choses qui m'ont plu.
Tant mieux!
Ouais. Il y a plein de choses qui m'ont plu, pas forcément quelque chose en particulier. Alors, il y a des choses qui m'ont marquée. On avait cours avec une dame qui travaillait en psychiatrie depuis très longtemps et qui était vraiment qui donnait des cours assez particuliers. Il faut beaucoup donner de soi. On passe par des objets, par du théâtre, par plein de choses. Donc ça, c'est assez marquant et ça marque tout le monde. Souvent en première année, quand on a les cours avec cette dame, on s'en souvient. Et sinon, au niveau de mes stages, moi j'ai beaucoup aimé. J'ai fait un stage dans un CAMS. C'est un centre d'action médico-sociale précoce, si je dis pas de bêtises.
Ok.
Voilà, et donc c'est avec des jeunes enfants de 0 à 6 ans. Et donc ça c'est mon stage préféré, si je puis dire, parce que vraiment, j'ai vraiment beaucoup aimé. C'était très varié. Les pathologies qu'on rencontrait étaient très variées aussi. Et puis c'est des tout petits et c'est vraiment sympa.
Est-ce que tu peux nous expliquer quel est le rôle de l'ergothérapeute, son cahier des charges, peut-être comment il agit, auprès de quel public
Bien
C'est
sûr.
un métier, je pense, qui est mal connu, donc ça vaut le coup de passer un moment là-dessus.
Un ergothérapeute, il va être là pour faciliter ou même réapprendre à réaliser les activités de la vie quotidienne d'une personne en tenant compte de son handicap ou ses difficultés et de son environnement. Donc en fait, ça peut passer par de la rééducation motrice, ou cognitive. Ça va ensuite passer par de la réadaptation. Donc ça va dépendre avec quel public on travaille. On fait aussi beaucoup d'aménagement de domicile, en retour à domicile pour des personnes qui ont été hospitalisées. Voilà, on fait aussi du positionnement pour quand on est en hospitalisation, pardon, les gens qui sont alités, les gens qui sont en fauteuil, c'est nous qui nous occupons de tout ça, du bon matelas, du bon coussin, de régler le fauteuil roulant, voilà. Et c'est vrai que, par contre, quand on travaille comme moi en libéral auprès d'un public d'enfants, c'est beaucoup de réadaptation ou d'adaptation qui touche surtout à la scolarité, puisque l'activité quotidienne principale d'un enfant, c'est l'école. Voilà.
Eh oui.
Donc, on travaille beaucoup avec tous les enfants qu'on dit 10, donc les dyspraxies, dysorthographies, dyslexie, etc. Des
D'accord.
enfants aussi qui ont souvent des difficultés pour écrire, des dysgraphies, on appelle ça comme ça. Et donc, on va faire en sorte d'aménager, de réadapter leur environnement. Souvent en passant par la mise en place d'un outil informatique pour enlever l'écriture. Donc ça, c'est la grosse partie quand même du travail d'un ergothérapeute en libéral. Je mets l'accent dessus parce que vraiment, hein, moi, sur trentaine de patients, je suis avec 20 patients sur l'outil informatique. Voilà,
D'accord, ok.
quand même.
Et même dans des systèmes scolaires conventionnels, je veux dire, des enfants qui sont
Bien
dans
sûr.
des écoles particulières ou dans des systèmes scolaires vraiment classiques?
Non, classique. Moi, la plupart des enfants que je les vois à l'école ou au collège, voire au lycée.
Ok. Donc
Système
tu te
classique.
déplaces dans leur lieu d'enseignement et tu trouves des solutions sur place.
Voilà, alors soit je me déplace à l'école pour faire les séances, soit ils viennent au cabinet. C'est une
D'accord.
alternance comme ça, on décide de ça au début de l'année. Mais dans tous les cas, même si je les vois au cabinet, on fait des réunions qui s'appelle des réunions ESS, équipe de suivi de scolarité, où voilà, il y a les professionnels, les parents et le corps enseignant, avec lesquels on discute du projet pour l'enfant, du projet personnalisé, individualisé pour l'enfant.
D'accord. Donc toi, une fois les 3 ans d'études terminés, c'était une évidence pour toi de travailler avec des enfants, des adolescents? C'est quelque chose qui te tenait vraiment à cœur?
Oui, moi, c'est vrai que suite à mon stage en CAMS, comme je le disais tout à l'heure, j'ai vraiment apprécié travailler auprès d'enfants. Et puis, le libéral, c'est vrai que ça me correspondait plus, je dirais, parce que c'est quand même tout un système différent du salarial, puisqu'en fait, on est auto-entrepreneur. Donc, moi, je suis en collaboration et en même temps, j'ai une activité personnelle aussi à côté. Mais même en collaboration, en fait, on n'a pas de patron, on choisit nos horaires. Donc, on a plein d'autres contraintes à côté. Mais par contre, voilà, c'est notre emploi du temps à notre guise. Et ça, moi, c'est quelque chose qui me correspondait plus. Et puis, on est aussi beaucoup plus libre de ce qu'on va faire. On est moins régi par une structure qui nous demande de faire tel ou tel acte. Voilà, on fait notre bilan nous-mêmes. Et puis derrière, on sait comment on va axer la rééducation de l'enfant.
Et un ergothérapeute, s'il n'est pas en libéral, il peut exercer dans quel type de structure? Si tu peux nous donner quelques exemples.
Alors, il peut principalement exercer en centre de rééducation, dans les hôpitaux. Donc, en neurologie, donc tout ce qui va être les pathologies AVC, sclérose en plaques, traumatisme crânien. Donc, il y a beaucoup d'ergothérapeutes dans ces centres-là. Ça peut être hospitalisation normale, ça peut être hôpital de jour, ça peut être ensuite d'hospitalisation, convalescence entre guillemets. Aussi, il y a beaucoup d'ergothérapeutes en psychiatrie, puisqu'encore une fois, voilà, comme on réadapte l'environnement, les activités quotidiennes des personnes, que ce soit un handicap moteur ou un handicap cognitif ou psychologique. Voilà. Et les ergothérapeutes sont partout où il y a une situation de handicap et que les activités de la vie quotidienne sont compromises.
Donc troubles psychiques, voilà. Troubles moteurs, et puis quel que soit le moment où s'installe le trouble, en fait, vous êtes là tout au long de leur vie pour garantir un quotidien plus simple, pour les gestes du quotidien, et puis pour vivre mieux, tout simplement.
Voilà. Et même en EHPAD, il y a beaucoup d'ergothérapeutes en EHPAD, ou même en centre d'hospitalisation gériatrique. Il me semble qu'il y a même un service urgence à la Salpêtrière où il y a une ergothérapeute qui passe pour le positionnement.
Génial.
Ouais. Auprès des tout-petits, voilà, c'est vraiment toute population.
Et vous agissez, je parle surtout pour toi en libéral, vous agissez sur la prescription d'un médecin. Comment les patients arrivent vers vous au cabinet?
Alors oui, on travaille sur prescription médicale. Donc ça, en fait, quand on est en structure, c'est le médecin de la structure qui fait sa prescription, qui est souvent assez ciblée. Alors, j'y travaille pas, donc je ne pourrais pas dire exactement si c'est ça à chaque fois, mais il me semble que quand même, c'est assez ciblé sur ce que le médecin peut demander de faire. En libéral, nous, c'est beaucoup plus libre, entre guillemets, parce qu'on a une prescription bilan en ergothérapie et séance si besoin. Et puis, en fait, c'est nous, à la suite du bilan, qui allons savoir quels sont les besoins de l'enfant.
Ah oui, donc vous avez une liberté au niveau du champ d'exercice qui, voilà, est quand même, qui est quand même plus vaste, quoi. Et c'est ça que tu trouves agréable et confortable au quotidien, c'est vraiment de pouvoir penser ton métier en fonction de tes ressentis, de ce que tu vois, quoi.
Exactement. Alors, apprendre avec des pincettes, puisque quand même, comme je travaille avec des enfants, il y a forcément les parents.
Et oui, c'est sûr.
Donc ça peut être super, comme ça peut être des fois un petit peu plus compliqué, puisque ça reste des parents qui ont un enfant qui est en difficulté. Et donc, des fois, c'est pas évident entre ce que nous, on ressent pour l'enfant, ce que les parents acceptent, ce qu'ils reconnaissent comme difficulté pour leurs enfants, et puis ce qui leur paraît important ou non. Voilà. Donc ça peut être plus compliqué. Par exemple, moi, j'aime beaucoup travailler autour du jeu, puisque je trouve qu'on développe beaucoup de choses avec l'enfant autour du jeu libre, de l'imaginaire, de tout ça. Ce qui est plus compliqué à faire en libéral, puisqu'en libéral, les parents payent la séance. Donc, eux ne voient pas le côté thérapeutique si on joue avec l'enfant. Donc ça peut être plus compliqué. Chose qu'en structure, il va moins se passer.
Ouais, c'est certain. Ah ouais, de réussir à faire passer le message qu'on souhaite. Et puis, on prend l'enfant dans sa globalité. On prend l'enfant en tant que membre d'une famille, j'imagine.
Tout à fait.
Ah ouais, c'est difficile. C'est sûr. Quels sont les autres corps de métier avec lesquels tu exerces? Alors, pas forcément dans ton cabinet, mais peut-être des gens avec lesquels tu es amené à travailler, à se faire des transmissions. Qu'est-ce qui s'articule concrètement autour d'un de tes patients?
Alors, pour la plupart du temps, je travaille beaucoup en collaboration avec des orthophonistes, puisque la plupart de mes suivis ont besoin de... Enfin, je généralise quand je dis ça, mais c'est vrai que les enfants, quand ils ont des difficultés, ça peut souvent être assez global. Et donc, les corps de métier, en tout cas, avec lesquels on va plus se retrouver à collaborer, sont les orthophonistes, les psychomotriciens, parfois les psychologues aussi, et puis, d'un autre côté, le corps enseignant. Beaucoup les professeurs, les professeurs des écoles, les CPE, les profs principales. Ça, c'est vraiment des acteurs importants puisque ce qu'on fait avec l'enfant en sciences, si c'est pas retranscrit à l'école, si tout ce corps enseignant n'est pas au courant et, ou n'accepte pas, puisque ça arrive aussi, c'est beaucoup plus compliqué. Mmh. Et puis, un autre acteur qui n'est pas professionnel, mais les parents. Vraiment aussi, ouais. C'est très important. Surtout quand on travaille autour des activités de la vie quotidienne de l'enfant, que ce soit le repas, l'habillage, la toilette, on insiste beaucoup auprès des parents pour qu'ils voilà, ils prennent ça en compte, qu'ils essayent au maximum de le retranscrire à la maison, sinon c'est compliqué. Mmh.
J'imagine, mais j'ai envie de dire, à commencer par moi, qu'il y a beaucoup de personnes qui mélangent un petit peu les rôles entre le psychomotricien et l'ergothérapeute. Ah, oui. Mais vraiment, je plaide coupable, j'en fais partie.
Normal, je comprends.
Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi vos deux métiers sont différents?
Bien sûr. Donc du coup, pour ce qui est du psychomotricien, donc je ne suis pas spécialiste, mais je dirais que la psychomotricité va mettre plus en lien le corps et l'esprit, ou en tout cas le corps et le psychique, pour des personnes qui ont des difficultés dans des fonctions psychomotrices. Et que, du coup, le psychomotricien va contribuer à la réhabilitation et la réinsertion psychosociale d'un patient.
Mmh, d'accord.
Mais ce qui va passer, bien sûr, par certaines mêmes activités que l'ergothérapeute, mais pas pour un même but. Mmh. Pas forcément pour un même but. Ou alors, à l'inverse, on va avoir un même but, par exemple, aider l'enfant à réécrire correctement. Le psychomotricien va passer par je perds mes mots. par un certain biais, en tout cas, il va faire ses séances d'une certaine façon. Et nous, les ergothérapeutes, allons faire nos séances d'une autre façon qui va aider l'enfant. Voilà, il va avoir plusieurs thérapies, que ce soit en psychomotricité ou en ergothérapie, qui vont le conduire à un même objectif ou un même but.
Donc en fait, psychomotricien, ergothérapeute, vous n'agissez pas par le même biais ni par les mêmes techniques, mais finalement, vos deux activités se rassemblent aussi autour d'un même but. Ouais, ouais.
Voilà. Ouais, ça, alors, surtout en libéral, auprès des enfants. Je ne sais pas comment les psychomotriciens pratiquent dans d'autres milieux. Mmh. En tout cas, je le sais moins. Je l'ai vu en stage, mais beaucoup plus rapidement. Mais en tout cas, ils vont être vachement plus axés sur le psychique, ainsi que la motricité, mais en lien. D'où le nom, d'ailleurs, psychomotricien. Nous, les ergothérapeutes, ça va être beaucoup plus fonctionnel pour le patient.
Vraiment, ouais, fonctionnel, ouais, ouais, c'est un bon mot, pour, je pense, pour expliquer la différence entre les deux. Ouais, ouais. Et finalement, un patient bénéficiera forcément de vos deux soutiens, ou alors il y a des patients qui ne verront qu'un ergothérapeute, qu'un psychomotricien? Ça dépend complètement des situations.
Non, vraiment, ça dépend. Moi, tous mes patients ne voient pas le psychomotricien. Okay. D'ailleurs, quand ils en voient, souvent, on fait un transfert de suivi. Soit s'ils voient l'ergothérapeute qui veulent voir un psychomotricien, on va faire ce qu'on appelle une fenêtre thérapeutique pour arrêter l'un ou l'autre. Parce que c'est vrai que ça peut être complémentaire, mais ça reste des enfants. S'ils sont continuellement après l'école en séance de rééducation, on n'aime pas trop, on évite. On aime bien éviter ça parce que voilà, ça reste des enfants, ils ont besoin de temps libre. Donc nous, nos patients, il y en a qui voient des psychomotriciens. Quand par exemple moi je me déplace à l'école, ça peut leur permettre d'aller voir le psychomotricien à un autre moment de la semaine. Mmh. Mais on peut être complémentaire. Ça dépend sur quoi s'axe le suivi et quels sont les objectifs du patient, parce que sinon ça peut être assez redondant, effectivement.
Mmh. Toi, le fait de te spécialiser en je dis pédiatrie, mais du coup voilà, enfant, adolescent, c'est un choix que tu as fait, mais est-ce que au moment de ta formation c'est une spécialité supplémentaire, ou est-ce que c'est vraiment une décision qu'on prend une fois qu'on a le diplôme en poche, on décide de restreindre son public auprès des enfants, adolescents?
En école d'ergothérapie, il n'y a pas de spécialité à proprement parler. Effectivement, ça marche par semestre, donc il y a des semestres qui sont plus axés sur la neurologie, d'autres sur la pédiatrie, d'autres sur la psychiatrie, voilà. Mais en tout cas, il n'y a pas de spécialité. Les seules, entre guillemets, spécialités qu'on peut avoir, c'est après, si on décide de faire un master ou un diplôme universitaire, qui s'axe plus vers autre chose. Mais encore, on part sur des choses qui concernent pas forcément que l'ergothérapie. En ergothérapie, à l'école d'ergothérapie, on est vraiment formé à tout, entre guillemets. On n'a pas de, on choisit pas sur quoi on va se former. C'est vraiment très global. Et les 5 stages aussi permettent de voir tous les différents champs quand même. Tout le monde ne va pas en stage en pédiatrie, mais c'est vrai que le module qui s'appelle lieu de vie correspond plus facilement à le milieu pédiatrique. Parce qu'en fait, un lieu de vie, c'est pas forcément là où les personnes vont habiter. Et ça va être aller les voir, en tout cas intervenir sur leur lieu de vie. Donc moi, quand j'étais en CAMS, que les enfants venaient pour l'après-midi, c'est considéré comme un lieu de vie. En libéral, quand on va à l'école, quand on va chez le patient, c'est le lieu de vie. L'EHPAD, par exemple, en gériatrie, c'est aussi le lieu de vie. Donc en fait, c'est vrai qu'avec ces modules-là, on a quand même tendance à toucher un petit peu à tout. Au niveau de mon cabinet, donc en fait, moi, je suis en collaboration dans un cabinet qui est à Saint-Ouen. Donc en fait, c'est quoi la collaboration? C'est une personne qui a ouvert son cabinet, qui a créé sa patientèle, et qui, au bout d'un moment, s'est retrouvée avec beaucoup trop de patients, en tout cas pour elle, toute seule. Puisqu'en moyenne, un ergothérapeute va prendre à peu près, hein, je fais une grande moyenne, mais entre 25 et 35 patients par semaine.
Ah oui.
À peu près. Sachant que c'est les mêmes patients toutes les semaines. On prend un créneau, par exemple, le lundi à 15h, je vais voir tel petit patient, je vais le voir toute l'année, tous les lundis à 15h. Donc voilà. Elle s'est retrouvée en fait au final avec trop de patients, donc elle a pris des collaborateurs. Donc en fait la collaboration, nous on vient dans son cabinet, on a quelques plages de cabinet puisqu'on se partage les plages horaires de cabinet. Les autres moments on va à domicile ou dans les écoles. Et donc en fait c'est comme si on lui louait sa patientèle, son cabinet, son matériel, puisqu'en fait on lui donne une rétrocession. Les rétrocessions, ça dépend, c'est les cabinets, ça peut aller de 15 à 30%. De notre chiffre d'affaires qu'on donne à la personne qui gère le cabinet, mais ce n'est en aucun cas une patronne en fait. Voilà, et on n'a pas de directive. Alors les directives entre guillemets, c'est des choses classiques, hein, c'est ne pas partir en vacances toutes les 3 semaines, voilà, des choses, puisque comme on est à notre compte,
j'imagine.
Voilà, il faut que la personne qui a le cabinet s'assure que sa patientèle va pouvoir avoir un suivi convenablement. Mais voilà, c'est une collaboration à Saint-Ouen. Donc, on est 3 ergothérapeutes dans ce cabinet. Et puis, moi, j'ai une journée, une autre journée de la semaine où je travaille à mon compte, on va dire. Même si de base, voilà, je mets des grands guillemets à ce que je dis, puisque dans tous les cas, je suis à mon compte. Mais en tout cas, je ne verse pas de rétrocession. C'est ça la différence. Et je suis dans une zone où je n'interviens pas. C'est ce qu'on appelle la zone de non-concurrence. Donc, voilà, je vais être dans une zone dans Paris. Moi, j'ai pas de cabinet, j'ai pas de salle, mais du coup, les patients que moi j'ai pour moi, je les vois dans les écoles ou chez eux. Donc, j'en ai 5 ou 6 comme ça. Et en fait, au bout d'un moment, c'est comme ça aussi que ça va fonctionner en libéral, c'est que plus je vais avoir de demandes, plus je vais avoir de patients personnels, bah, au fur et à mesure, je vais peut-être diminuer mon temps de collaboration.
Bien sûr.
Pour au final ouvrir un cabinet.
C'est un super biais pour démarrer, je trouve. Ça n'a pas le côté effrayant de peut-être prendre un cabinet à son nom, puis de devoir se créer sa patientèle, puis avec tout ce que ça engendre à côté.
Tout à fait.
Et non, l'impression de ne pas être complètement lâché sans filet non plus. Enfin, j'imagine ouais, que c'est un aspect rassurant et confortable.
On ne se voit pas beaucoup, on se croise, mais rien ne nous empêche de nous faire des réunions, de discuter.
Complètement, oui. Ouais.
On est accompagné, hein. Au début, on est formé, puisque... À l'école d'ergothérapie, on a un semestre de pédiatrie, mais c'est des grandes lignes en fait. C'est pas moi, j'avais jamais travaillé ou été formée par rapport à l'outil informatique par exemple, alors que c'est la majorité du travail en libéral. Donc là-dessus, c'est quand même bien la collaboration. Et c'est vrai que il y a très 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 peu d'ergothérapeutes qui se lancent, qui ouvrent leur cabinet en sortant de l'école.
Directement à la sortie de l'école, ouais.
Finalement, j'en connais pas.
Est-ce que je me rends pas trop compte au niveau de la situation en France, on manque d'ergothérapeutes, les écoles ont du mal à remplir leur numerus clausus, ou comment ça se passe?
Alors non, il y a beaucoup de personnes dans les écoles, puisque justement les écoles n'arrêtent pas d'en réouvrir. Moi quand j'étais voilà, comme je disais tout à l'heure, à peu près à 15 écoles. Je pense qu'on doit être depuis 2 ans, on a dû ajouter entre 5 et 10 écoles déjà.
Ah oui.
Ouais. Donc là, pour l'instant, ça augmente. Après, au niveau du travail, nous, quand on sort de l'école, on est, je pense qu'on n'est pas loin des 100% de diplôme, d'avoir un travail à la sortie de l'école. Là, j'avais un contrat déjà au mois d'avril. J'étais
Ah ouais.
prédiplômée.
Pas encore diplômée, mais déjà avec un contrat.
Voilà, là-dessus,
Ah
mais c'est
ouais.
Paris, hein. C'est Paris.
Oui, sur
En fait,
Paris,
c'est
ouais.
beaucoup plus difficile. C'est un peu plus bouché. Surtout dans l'ouest de la France, c'est plus compliqué pour le libéral. Mais dans tous les cas, sinon, voilà, il y a une plateforme qui s'appelle l'ANFE qui regroupe tous les. C'est l'Association nationale française des ergothérapeutes. Donc là-dessus, on trouve toutes les offres d'emploi pour les ergothérapeutes et vraiment, il y a de quoi faire.
Ok, je mettrai le lien dans la description
Oui,
de
bien sûr.
l'épisode si ça peut intéresser du
Bien
monde.
sûr.
Ok. Bon, du coup, c'est un métier voilà, qui a de l'emploi, quoi. C'est bon à savoir parce qu'il y a quand même des professions comme ça qui peuvent être attirantes puis qui sont complètement bouchées. Mais non, là, tu es en train de nous prouver que
Bien
vraiment,
sûr.
des ergothérapeutes, il y a de la place pour tout le monde,
Ah,
quoi.
ça, ouais, il y a de la place.
Bon, c'est chouette. C'est chouette. Qu'est-ce qu'on imagine pour toi pour la suite? Qu'est-ce que tu envisages? Est-ce que l'éventualité d'ouvrir ton cabinet, c'est quelque chose qui te trotte dans la tête ou est-ce que c'est pas pour tout de suite?
Alors, bonne
Ou un
question.
master? T'as parlé d'un master aussi tout à l'heure,
Oui,
je sais
alors,
pas si c'est dans les.
master moins, je suis bien dans la vie professionnelle, clairement. Qu'est-ce qu'on imagine pour moi pour la suite? J'aime bien la collaboration, pour être honnête, parce que monter son cabinet, c'est quand même d'autres contraintes. Alors, c'est
C'est sûr.
plein d'avantages et c'est très chouette de monter son cabinet, mais c'est d'autres contraintes. Et puis, on est aussi seul. Et c'est vrai qu'en libéral, c'est un facteur qui est à prendre en compte. On n'a pas tout cet aspect équipe autour de nous, collègues. Voilà, on en a, mais on les voit moins, on les croise. Et voilà, moi, la collaboration, j'aime bien. Mais c'est vrai qu'à terme, quand même, j'aimerais. Alors peut-être même voir d'autres cabinets, c'est quelque chose qui pourrait se faire pour voir d'autres endroits, d'autres écoles, voilà. Ou alors voir voilà monter mon cabinet. Mais pour l'instant, je suis très bien en collaboration. Je compte y rester un petit moment quand même.
Ben c'est chouette, merci beaucoup Sarah, c'est génial d'en connaître plus sur ce métier
Mais avec plaisir.
qui est l'un des nombreux métiers du domaine paramédical, mais tu viens de nous prouver que vous êtes un élément essentiel dans l'accompagnement de ces patients, qu'ils soient jeunes ou moins jeunes,
Bien
et
sûr.
on voit que tu es passionnée par ce que tu fais, donc c'est
Ouais,
chouette.
c'est vrai que c'est un chouette métier et puis c'est vraiment très diversifié, hein. Comme je disais tout à l'heure, on peut vraiment travailler avec toute population. Là, je repensais en discutant, il y a l'hôpital militaire qui il y a un service en ergothérapie. Il y a tous les grands brûlés aussi, puisque en fait, pareil, on
Ah,
va
bien
faire
sûr.
tout ce qui est matériel, voilà, pas vraiment les pansements, mais tout le matériel qui va permettre à la peau aussi de se reconstruire, toutes les orthèses, les attelles. Donc, on fait beaucoup d'orthèses aussi. On a un semestre là-dessus à l'école. Donc, ça, c'est quand même assez sympa à faire, hein. Ça change beaucoup. On a travaillé avec du thermoformable, des cuves. On fait chauffer tout ça. On travaille, en fait, voilà, sur surtout le membre supérieur. C'est vrai que pour vulgariser, on dit souvent que l'ergothérapeute, c'est le membre supérieur et le kiné, c'est le membre inférieur. Mais
Ah, ok.
c'est pas totalement faux, hein. Puisqu'on va quand même vachement travailler là-dessus, puisqu'on va moins travailler sur la marche, par exemple. Ça, c'est plutôt le kiné qui va travailler là-dessus. Mais ouais, hein, les orthèses, c'est quelque chose qu'on aime faire en général, hein, quand on arrive en deuxième année.
J'imagine, ouais.
C'est très sympa, en fait. On va travailler pour plusieurs pathologies différentes. Donc, c'est qu'au niveau de la main, du poignet et de l'avant-bras. C'est quelque chose qui est sympa à faire. On teste, on expérimente sur nous, on se met en binôme. On fait des orthèses fixes, on fait aussi des orthèses mobiles. Donc c'est très sympa. Et après, c'est vrai qu'en neurologie, c'est des choses qui peuvent se retrouver beaucoup chez les patients en neuro, puisque c'est des patients qui vont être souvent spastiques, donc les mains fermées. Donc voilà, pour essayer de retrouver des extensions de mains ou à l'inverse des flexions de certaines articulations, on utilise pas mal les orthèses avec. Donc ça, c'est aussi un autre aspect parmi tant d'autres, hein, mais
Oui, c'est ça, c'est ce que j'allais te dire, ouais. Vous avez un champ d'exercice qui est immense, quoi, du
bien
coup.
sûr. Moi, voilà, ma promotion dans mon groupe d'amis, par exemple, je pense que voilà, personne ne fait la même chose. Personne ne fait la même chose. On fait tous des choses. On a tous des populations différentes, que ce soit gériatrique, neurologie pure, libérale, pédiatrie, polyhandicap aussi, beaucoup. avec les enfants, pour le coup, qui viennent à la journée dans des structures, pas comme en CAMS ou en libéral. Voilà, c'est des structures qui s'appellent soit des IME, soit des IEM, des instituts médicalisés, éducatifs, où les enfants se retrouvent là, même pour l'école, en fait. Leur scolarité se passe là-bas. Et là-bas, les ergothérapeutes interviennent, du coup, autant pour la scolarité que pour tout ce qui va être les activités motrices ou cognitives. Beaucoup d'activités de motricité fine avec ses enfants, d'activités quotidiennes. C'est vraiment très, très large. On peut vraiment, je pense que voilà, tout le monde peut trouver quelque chose qui va lui convenir.
Ouais, et puis il n'y a pas moyen de s'ennuyer, quoi. C'est vrai que si un jour tu as envie de, voilà, de changer peut-être de population, tu dis, bon, les enfants, les adolescents, maintenant j'ai envie de passer à autre chose, c'est un métier dont on ne fait jamais vraiment le tour. Finalement.
Ah non, c'est clair que on fait jamais le tour. Moi, je me souviens que justement, le premier stage de 3 jours que j'avais fait dans un centre de rééducation, je m'étais dit, mais c'est incroyable, cette personne qui est avec moi, cette ergothérapeute qui est avec moi, elle me disait, bah voilà, il y a 10 ans, je travaillais avec un chirurgien à la clinique de la main. Donc j'allais au bloc avec lui pour voir quelles fonctions on pouvait récupérer sur la main, qu'est-ce qu'on pouvait faire après.
Ah ouais.
C'est super large, c'est super large. Il y en a aussi, il y a des ergothérapeutes qui, eux, développent, comment dire, d'autres choses complètement différentes, par exemple des matériels adaptés. Il y a plein de choses qui sont faites par des ergothérapeutes, on n'imagine pas. Mais voilà, par exemple, je prends un exemple tout bête, la fameuse cup menstruelle. C'est un ergothérapeute qui a créé ça.
Mais
il y a
non.
Très longtemps.
Ah ouais.
C'est des petites choses en fait qui sont faites pour faciliter l'activité de la vie quotidienne. Voilà. C'est très 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 large.
Ah ouais, j'aurais jamais imaginé. Puis bah maintenant avec ce que tu me racontes, ça me choque pas complètement. Ouais, c'est oui, mettre un objet au service aussi de la vie courante. C'est
toutes les aides techniques, les adaptations. Il y a beaucoup de choses qu'on voit aussi maintenant sur les réseaux. Je sais pas, moi je vois, alors c'est peut-être parce que le fil d'actualité est un petit peu dur avec ce qu'on regarde, mais des fourchettes adaptées, des assiettes adaptées, des verres lestés, des choses, voilà. Tout ça, c'est des techniques que l'ergothérapeute va mettre au service des patients. Donc c'est vrai qu'en structure, on travaille souvent avec des revendeurs médicaux, voilà, pour mettre en lien tout ça, et puis pour faire au mieux. Ensuite, on fait des visites à domicile chez le patient, on regarde tout ce qui peut le mettre en danger déjà aussi, hein, puisqu'il y a quand même tout ça. Avant de l'aider à proprement parler dans son quotidien, on regarde surtout à ce qu'il se mette en danger. Chez la personne âgée, c'est très très courant. Un petit exemple, les tapis.
Ah,
les tapis, c'est voilà, le col du fémur directement.
Ah ouais. c'est la lutte. Et puis je veux pas faire des gros stéréotypes, mais c'est une génération qui est très attachée au tapis d'intérieur. Je sais pas, c'était un élément décoratif qui était très en vogue, peut-être un peu moins aujourd'hui. Et c'est dur, hein, c'est vrai, de leur faire comprendre que c'est un vrai danger, quoi.
C'est ça. Et puis en plus, on n'est pas là non plus pour interdire, pour voilà. C'est la personne qui décidera dans tous les cas. Mais au moins, on vient dire et vient voir et expliquer ce qui est adapté et ce qui est beaucoup moins adapté. Quand on a des choses à mettre en place après, que ce soit un tapis ou que ce soit des immenses armoires, commodes qu'on trouve dans les chambres, dans les salons, dans les couloirs, passer un fauteuil roulant après, c'est compliqué. Enfin, c'est vrai qu'on doit quand même beaucoup s'accommoder de l'environnement de la personne, mais en même temps, on est là aussi pour que son environnement lui corresponde. Donc si ce tapis, bah, elle les aime et qu'elle veut les garder, c'est comme ça. C'est à nous de trouver comment faire avec ce tapis pour qu'il puisse rester là, sans que ce soit un danger pour la personne.
Les antidérapants sous
voilà,
les tapis.
Allez le dire.
Ben oui, entre autres. Oui, c'est vrai. Ouais. Je pense aussi aux pantoufles qui sont pas maintenues derrière le pied. Ça aussi, c'est un vrai. Enfin, je vais rien t'apprendre, mais je faisais la lutte moi aussi auprès de mes patients pour dire ça à la maison, c'est plus possible, quoi. Vraiment. Il faut une bonne vieille charentaise qui prend tout le pied, mais pas les pantoufles qui glissent comme ça.
Surfermées.
Exactement.
C'est le plus important, ouais. Ça me fait penser aussi que d'autres aspects hein, du métier me viennent en tête, parce que c'est vrai que moi, je pratique une petite partie, mais je repense à mes stages. Voilà, quand on parle de personnes âgées, tout ça, il y a toute une partie aussi où on fait de la prophylaxie auprès des patients. Moi, il y avait un stage où il y avait des prothèses de genoux, des prothèses de hanches. Donc derrière, ces personnes-là viennent voir les ergothérapeutes pour voir les mouvements contre-indiqués. Il y a des mouvements à surtout pas faire quand on a une prothèse. Donc en fait, tout ça, on leur dit, et puis pas que les ergothérapeutes, sauf qu'en fait, ils s'imaginent pas quand est-ce qu'ils vont être amenés à faire ces mouvements. Donc nous, on réapprend à comment monter dans une médoire, par exemple. Il y a un truc à utiliser, pas l'autre. Il y a, faut s'asseoir d'une certaine façon, faut ressortir d'une certaine façon. Quand c'est plus prothèse d'épaule, comment on étend son linge, comment on va chercher une assiette en hauteur. Voilà, il y a plein de petites choses.
Ah ouais, des petits trucs du quotidien.
Voilà, c'est ça.
Ouais, ouais. Et quand on est valide, on se rend probablement pas compte de ce que ça engendre. Mais ouais, même sortir de son lit, on met pas la jambe en adduction vers l'extérieur.
Exactement.
Pour pas luxer la hanche. Ou,
Voilà,
ouais.
c'est tout à fait ça.
Ouais. Faut réapprendre à vivre autrement, quoi. Mais vous
Voilà,
êtes là pour ça.
on réadapte et on rééduque à l'avance quand même, parce
Ouais.
que ça se trouve, la personne va pouvoir le faire. Si la rééducation, des fois, on est face à quelques limites, on va plutôt réadapter. C'est souvent dans cet ordre-là, d'ailleurs.
Oui, rééduquer puis réadapter.
Voilà,
Ouais.
c'est ça.
Il y a une dernière question que j'avais envie de te poser, c'était est-ce que tu as une journée type ou en tout cas un schéma un peu qui se répète au niveau de tes journées au cabinet?
Alors, justement, non, il n'y a pas vraiment de journée type. Sauf que, comme je disais tout à l'heure, pour la plupart des ergothérapeutes en libéral, chaque jour de la semaine va être le même, entre guillemets, hein, d'une semaine à l'autre. C'est-à-dire que mes patients, je les appelle fin août, début septembre, en fonction de leurs emplois du temps. On cale un créneau par semaine pour toute l'année. Voilà, donc ça va être assez routinier, entre guillemets, mais d'une journée à l'autre, ça change. Hein. Le lundi n'est pas mal pareil que le mardi, ni que le mercredi, etc. Et puis, on a aussi, alors moi, c'est une fois par semaine, une matinée par semaine, je reçois des patients en bilan. Donc, en fait, c'est des patients qui ont été, comment dire, emmenés par un médecin, en fait, recommandés par un médecin, plutôt, et pour un bilan d'ergothérapie et des séances si besoin. Donc, en fonction de leur problématique, moi, j'ai plein de bilans au cabinet. Et donc, en fait, on adapte quel bilan on va faire passer. On fait tout un entretien avec eux, avec les parents. Et c'est souvent des patients, bien sûr, pour lesquels il va y avoir un besoin de suivi derrière. Et ce qui est bien, c'est que voilà, on fait le bilan et nous-mêmes, on voit ce qui est nécessaire pour le patient et où sont ses difficultés. J'ai beaucoup de mal, ça arrive des fois que je reprenne des patients où le bilan a été fait ailleurs. J'ai plus de mal parce que même si je lis le bilan, on a tous notre façon de le faire.
Bien sûr.
Et voilà, il y a beaucoup de qualitatif dans ce qu'on fait. Donc, c'est plus difficile. Souvent, je refais quelques petites choses et pendant deux ou trois séances, je refais sans faire un bilan à proprement parler. Je refais des petits exercices avec le patient pour voir vraiment de quoi il est capable de faire.
Et est-ce que tu as parfois l'impression que les patients arrivent, entre guillemets, trop tard vers toi? Qu'il y a des choses qui auraient pu être mises en place plus tôt, même
Ah là
en
là.
prévention ou pour accompagner un quotidien avant que ça devienne vraiment trop compliqué?
Ça oui, on a beaucoup le souci en écriture. Parce que c'est encore compliqué, autant je pense pour les parents que pour les enseignants, d'accepter qu'un enfant ait des difficultés d'écriture et que pour lui ce ne soit vraiment pas adapté, l'écriture. Et donc ça souvent, alors il y en a de plus en plus quand même qui arrivent assez tôt, mais nous on considère, en tout cas avec mes collègues et en ergothérapie je pense en général, que l'écriture en fait elle va être entre guillemets fixée aux alentours de 7, 8, 9 ans. Qu'à partir de 7, 8, 9 ans, ça va être très compliqué de faire de la rééducation de l'écriture.
Ah, d'accord.
Voilà, puisque l'enfant, il aura pris des automatismes pendant sa scolarité qui vont être très compliqués à enlever. Donc, en fait, souvent, à partir de cet âge-là, moi, je sais que si je reçois un enfant qui a, par exemple, 9 ans, qui est en CM1, qui a des grosses difficultés d'écriture, je ne vais pas rééduquer l'écriture. Je sais que ça va être... Alors, peut-être qu'on va gagner en qualité, mais en tout cas, ce ne sera pas fonctionnel. Puisqu'arrivé en classe, le professeur, il va écrire à son rythme. L'enfant, la qualité, il l'aura perdue parce qu'il devrait aller plus vite. Donc, ce qu'on fait attention, c'est à la qualité, à la vitesse et aux douleurs. Parce que c'est aussi des enfants qui vont être souvent crispés. Donc, ils vont avoir des douleurs au poignet, au doigt, à l'avant-bras, même à l'épaule.
On va finir par le petit portrait chinois pour apprendre à te connaître encore mieux. La première question que j'ai, si tu avais une baguette magique, quel outil voudrais-tu inventer pour t'aider dans ta pratique?
Alors, si j'avais un outil, ce serait un outil qui accélère et qui facilite, je dirais, le processus de collaboration entre la famille, nous, le corps enseignant et la MDPH. La MDPH, j'en ai pas parlé, c'est la maison départementale des personnes handicapées. Et donc, en fait, c'est par là que va tout se passer pour la scolarité de l'enfant. On fait des réunions qui sont, on fait des GEVASCO ensuite, c'est des papiers en gros qui remplissent les capacités de l'enfant à l'école, qui sont envoyés à la MDPH et puis ensuite l'enfant a ou non un dossier MDPH et ou non une aide financière pour les séances. La MDPH, c'est des délais, surtout là où je suis dans le 93, entre 3 et 6 mois.
Oh là là.
Donc c'est très long. Puis ensuite, quand on a l'accord, il faut mettre en place les séances. Puis il faut réussir à appeler les parents, à appeler l'école, à mettre en lien tout le monde. Donc ouais, un petit outil qui pourrait...
Un peu coordonner tout ça, ça serait pas de refus.
Génial. Ça peut être très long.
La question suivante, la phrase que tu prononces le plus au quotidien dans ton travail.
Alors, la phrase que je prononce le plus au quotidien, ça pourrait paraître étonnant, mais je demande souvent à mes petits patients « Quel jour sommes-nous ?»
Ah, ok.
Pourquoi je demande ça ? Je leur demande ça systématiquement en début de séance, comme un petit rituel en fait, parce que moi je trouve ça très très important qu'ils se situent dans le temps, pour qu'ils puissent s'autonomiser, savoir ce qu'ils ont prévu, ce qui va se passer les prochains jours, prochaines semaines, les prochaines vacances. Je trouve que ça commence aussi ici. De savoir un enfant qui se laisse pas forcément guider par voilà, on m'emmène là, on va là, bon, je sais pas vraiment trop pourquoi. Je trouve ça très important qu'ils sachent quel jour on est. Ça met un cadre et au final, ils savent que, bah, par exemple, tel enfant va venir me voir le jeudi. Donc il sait qu'on est jeudi.
C'est très bien.
Voilà.
Très très bien. Question suivante, plutôt thé ou café ?
Ah, thé. Je bois que du thé. Que du thé, mais je bois peu au boulot. Donc,
Ah, c'est pas bien.
Ouais, je sais.
La question suivante, c'est plutôt crocs ou basket, mais je crois que tu m'as dit que du coup, tu étais en civil, hein, toi,
voilà,
au travail.
Voilà, tout à fait. Je suis en civil, du coup, basket. Mm. Et on fait quand même beaucoup, beaucoup de marches, hein, entre toutes les écoles, les collèges, les domiciles.
J'imagine. Question suivante, plutôt 10 ans dans le même lieu d'exercice ou 10 lieux d'exercice en un an ?
Plutôt 10 ans dans le même lieu d'exercice. Parce que, en fait, nos prises en charge, nos prises en soins sont quand même sur le long terme, avec des patients, des petits. C'est pas comme ensuite de rééducation où c'est des patients qu'on va avoir 3 semaines, 1 mois. On va faire de la rééducation fonctionnelle pure et motrice, où là, le but, c'est qu'ils récupèrent le maximum en peu de temps. Donc, on va les voir tous les jours. Moi, c'est un suivi par semaine, donc c'est plutôt sur le long terme. Donc, plutôt 10 ans dans le même lieu.
Ouais, j'imagine. Et la dernière question, si tu n'avais pas exercé le métier d'ergothérapeute, vers quelles études ou vers quel métier te serais-tu orientée ?
Alors, quand j'étais plus jeune... J'étais intéressée par ce qui était puériculture. Donc, j'aimais beaucoup ça. Donc, ça va un petit peu quand même avec le côté pédiatrique.
Complètement, oui.
Et ouais, j'ai plus changé, j'ai plus été vers les métiers d'architecte d'intérieur, de décoration d'intérieur. Ça me plaisait beaucoup. Donc, c'est très large. Hein. J'ai beaucoup d'idées, un peu trop même.
Pour une reconversion, t'as de l'idée, ouais, c'est sûr.
Ouais. Mais en fait, ce qui m'a quand même arrêtée, c'est qu'il y a très peu de débouchés. Enfin, bon, de ce que je voyais, c'est que c'était compliqué dans l'architecture d'intérieur, décoration d'intérieur. À part avoir un magasin de décoration, c'est compliqué. Et aujourd'hui, des fois, je me pose la question. Je me disais, alors ça peut être en lien avec l'école d'ergothérapie parce qu'on avait un BDE, donc comme tout dans toutes les écoles, hein, on avait le bureau des étudiants et j'y ai pas mal participé. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je me dis, tiens, l'événementiel, quand même, ça m'aurait peut-être plu.
Ah ouais,
Ouais, des choses que j'aime bien, organiser des choses comme ça, ça peut me plaire. Mais bon, c'est pas mal dans le milieu où je suis parce que j'ai tout à organiser.
Oui, c'est ça, c'est ce que j'allais dire. C'est quand même, finalement, c'est un peu des facettes déjà de ce que tu fais au quotidien. Donc,
C'est vrai.
Bah super, un grand merci Sarah.
Avec plaisir.
C'était vraiment chouette de t'avoir à mon micro pour expliquer toutes les facettes de ce très très beau métier. Donc merci pour ça.
De merci.
Et puis, je te souhaite un très très bel été et puis
merci
à bientôt.
Beaucoup. À bientôt.
Merci beaucoup à Sarah pour son partage d'expérience. Le domaine paramédical regroupe des métiers parfois peu ou mal connus et pourtant essentiels pour venir en aide à de nombreux patients. Je souhaite à Sarah le meilleur pour le reste de sa carrière d'ergothérapeute qui sera, j'en suis sûre, riche en tout point. Quant à moi, je vous dis à dans 2 semaines pour un prochain épisode.